Présidence.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Charles de Montalembert disait « Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. » Ne regardez pas votre page web avec ses yeux effarés. Vous n'avez pas été transféré sur une page annexe du site internet de France Culture. Non. La preuve, à Présidence, certes, on traite de sujets sérieux, mais sans pour autant se prendre au sérieux. Vous êtes donc toujours sur Transistor et j'espère que vous y êtes bien. Charles de Montalembert disait donc « Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. La politique est partout. Ambiance, film d'horreur, n'ouvrez pas votre placard. La politique, allégorisée, vêtue de noir pour vous faire encore plus peur, y est peut-être cachée. Big Brother is watching you. » La politique s'occupe de nous ? Très bien. À Présidence, nous avons décidé de nous occuper d'elle. Et pour cela, une équipe de choc. Les mêmes pas peur, mais un peu quand même. Tout d'abord, Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Qui anime avec moi l'interview centrale de Présidence. Puis Amos Reichmann.
Bonjour.
Et son carnet de campagne personnel. Enfin, celui que vous attendez tous, Antoine Jaya, pour rire et sourire avec son billet d'humour et d'humeur.
Bonjour.
Cette semaine, c'est une élue du Parti Socialiste, porte-parole de Ségolène Royal depuis 2007, adjointe au maire de Lyon, chargée des grands événements, de la jeunesse et de la vie associative, qui a pris place derrière le micro de Présidence. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons de la jeunesse en France, une jeunesse qui pourrait être attirée par les sirènes du Front National que vous dénoncez dans un livre récent. Mais avant cela, pour savoir ce qui s'est passé dans la sphère politique ces derniers jours, rien de mieux que le carnet de campagne d'Amos.
Il a parlé. Enfin. Le monde s'effondre, les socialistes débattent et lui se taisait dans son lointain palais. Certes, il n'en est pas sorti pour recevoir Yves Calvi et Jean-Pierre Pernaut, sparring partners de la soirée. Mais depuis les ors du château, il a délivré la bonne nouvelle. J'ai sauvé la France, j'ai sauvé l'Europe, j'ai sauvé le monde. Il faut dire qu'avant cette émission du jeudi 27, il y a eu le sommet de tous les dangers. Le monde ne suffit plus. Tout se jouait à Bruxelles. Un temps, la campagne s'est transportée dans les alcôves européennes. La Grèce et l'Italie au fond du trou, mais des élections en vue. Sarkozy doit emboîter le pas à Angela Ier, impératrice en chef de l'Allemagne de la vertu. Celle qui ne dépense pas plus de marx, pardon, d'euros qu'elle n'en gagne. Sur la ligne allemande, la France s'aligne. On dit la Grèce sauvée, les banques recapitalisées et le Fonds européen de stabilité financière qui se voit augmenter de l'aide chinoise. Pékin vaut bien une messe. Ouf de soulagement et le CAC augmente de 6%. Champagne! Quelques jours plus tôt, on apprenait que le chômage augmentait encore et toujours en France. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seule seconde l'infini de la jouissance. Le CAC a augmenté et Giulia est née. L'heure était au Sarko, heureux père protecteur. S'il se refuse à se déclarer candidat, préférant attendre les premiers mois de 2012, prenant cela exemple sur la candidature victorieuse de Mitterrand à sa propre réélection en 88, le président est apparu plus que jamais en campagne. Des 4 dernières années, il est bien peu resté. Le bilan défendu, c'est celui de la campagne à venir. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, on continuera. Autonomie des universités, on ira plus loin. Réforme des retraites, nécessaire illustration des sacrifices qu'il faudra poursuivre. Le candidat fantôme s'en est également fermement pris aux socialistes. Les 35 heures, l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite, les réformes des irresponsables, celles qui ont conduit le pays au bord du précipice, dans les illusions de la dépense et de la récréation sans fin. Jeudi soir, Sarkozy a sifflé. La fin de la récréation, le début de la campagne. Au plus bas dans les sondages, devant faire face aux divisions de son camp, il a lancé sa bataille. Connaissant son principal adversaire, François Hollande, le président en exercice, lui qui a l'expérience des nuits de négociation à Bruxelles, lui qui joue un rôle du premier plan dans les grandes allées du pouvoir depuis près de 10 ans, va chercher à discréditer un candidat socialiste qui ne connaît guère plus que les couloirs de la rue de Solferino. L'expérience contre l'insouciance, le travail contre les mauvaises et molles trouvailles socialistes. Sarkozy, le président blessé, a rugi et montré qu'il n'avait pas encore perdu. Jeudi soir, il a montré qu'il avait la capacité de repartir pour 5 ans. Avec cette crise qui ne veut pas finir, ce sont les lignes de la campagne qui se déplacent. Un mal pour un bien, peut-être. L'heure semble être aux grandes questions. Quelle Europe? Que fait-on de l'euro? Quelle France dans quel monde? Comment faire notre monde? Et pourtant, la faillite européenne est là. De l'apocalypse tranquille à l'hiver européen, les expressions qui disent l'impasse sont floresses. En ce début de XXIe siècle, l'Europe achèverait le déclassement inauguré au XXe. Du suicide par les guerres à celui par l'argent roi. Sombre tableau dont tous les candidats semblent avoir conscience. Marine Le Pen à Lampedusa, Eva Joly à Fukushima, Mélenchon dans les usines. Chacun investit ses territoires du désarroi, de la crise de l'Europe dans le monde, de la France dans l'Europe. Alors, par-delà les émissions de télé, les petites phrases, on est en droit d'espérer de cette campagne un débat radical sur le sens du vivre ensemble dans ce drôle de monde, sur la place des pièces jaunes dans nos vies, en somme sur ce monde dont chacun s'accorde à considérer qu'il ne tourne plus dans le sens de ses habitants. Aux candidats de s'élever à la hauteur des enjeux. Dans ce sens, on saluera les initiatives de trois centre-droitistes, François Bayrou, Hervé Morin, Dominique de Villepin, trois ambitieux qui piaffent d'impatience, qui se prennent plus ou moins sérieusement pour De Gaulle et qui s'apprêtent, ou pas, à les savoir, à se déclarer candidat. Mais comme on le sait, plus on attend, plus on a la lumière, plus l'ego est satisfait. Tristesse de politiques qui se prennent trop au sérieux pour prendre la France à la lettre. Mais ne soyons pas par trop naïfs, ne rêvons pas trop d'une campagne capable de changer le monde. À la télévision, Sarkozy s'est permis une référence culturelle, et oui, culturelle. Les Borgia, série sexuellement politique, où l'ambition écrase la politique qui passe en ce moment sur Canal+. Sarkozy, la rigueur, qui cite les Borgia. La Merkel dans les Borgia, c'est de l'ordre de l'inimaginable. Sarkozy, on y croirait davantage. Il y croiserait un DSK déprimé de jouissance, François Hollande en embuscade, Marine Le Pen prête à s'offrir à Mélenchon pour quelques voix de plus, Bayrou hurlant à tous d'arrêter pour mieux se plonger dans les fanges des ambitions présidentielles. Il y a de quoi plaindre notre beau pays. Ainsi va la campagne.
Merci Amos. C'était une chronique empreinte d'amertume et de gravité. Peut-être que la phrase de Charles de Montalembert t'a un peu effrayé. Ce qui est grave également, c'est l'audience du Front National et surtout celle qu'elle a auprès des jeunes qui voient, c'est vrai, leur situation sur le marché de l'emploi notamment se dégrader. Pour parler de cela, une invitée, Najat Vallaud-Belkacem.
Najat Vallaud-Belkacem, bonjour.
Bonjour.
Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes engagée en politique au sein du Parti Socialiste. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris en 2000, c'est à la suite du coup de tonnerre du 21 avril 2002, où Lionel Jospin fut disqualifié du second tour de l'élection présidentielle, que vous avez décidé d'adhérer au Parti Socialiste. En 2003, vous avez rejoint l'équipe du maire de Lyon, Gérard Collomb, en menant des actions pour renforcer la démocratie de proximité, l'accès des citoyens à l'emploi et au logement, ainsi que la lutte contre les discriminations, question à laquelle vos origines marocaines vous ont rendu particulièrement sensible. Vous avez été élu pour la première fois en mars 2004 au Conseil régional de Rhône-Alpes, où vous avez présidé la commission culture et assumé la fonction de conseillère régionale déléguée en charge de la politique culturelle sur le territoire rhône-alpin. En 2005, vous êtes devenu membre du Conseil national du Parti Socialiste, où vous êtes depuis 2 ans secrétaire national en charge des questions de société, de bioéthique. Et vous êtes logiquement engagé lors de la dernière campagne présidentielle aux côtés de la candidate socialiste, Ségolène Royal, dont vous étiez l'une des trois porte-parole officielles avec Vincent Pillon et Arnaud Montebourg. Vous avez de nouveau soutenu Ségolène Royal lors des primaires citoyennes qui viennent de s'achever. Après un échec aux législatives à Lyon face à Dominique Perben, vous avez été élu lors des cantonales de mars 2008, conseillère générale du Rhône pour le canton de Lyon 13, Montchat, puis conseillère municipale de Lyon sur la liste de Gérard Collomb. Vous êtes donc adjointe au maire de Lyon, déléguée aux grands événements, à la vie associative et à la jeunesse. C'est précisément sur ce dernier sujet, la jeunesse, que nous allons commencer notre entretien. François Hollande, que vous soutenez désormais, a décidé de faire de la jeunesse un sujet phare de la campagne présidentielle. À droite, certains lui reprochent de faire de la démagogie et du jeunisme. Que leur répondez-vous, Najat Vallaud-Belkacem ?
Je leur réponds que s'ils ne comprennent pas que le sujet majeur de notre société, c'est en effet la place de sa jeunesse, c'est la façon dont on investit dans cette jeunesse, à la fois pour lui permettre de s'épanouir, de se trouver un rôle, et puis en même temps pour préparer l'avenir, eh bien c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Moi, vous savez, je suis persuadée d'une chose, c'est que de la même façon qu'en 2002, souvenez-vous-en, c'était la fracture sociale qui avait été déterminante dans la campagne présidentielle, je pense que ce qui nous attend pour 2012, c'est la fracture générationnelle. Pour une raison très simple, c'est qu'on est en train de se rendre compte que depuis des décennies, décennies maintenant, notre société n'investit plus dans sa jeunesse. C'est que avoir un taux de chômage qui frise les 22% pour les moins de 25 ans, eh ben, c'est vrai qu'autour de nous, dans les autres pays européens, on voit pire encore, en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Mais enfin, quand même, ça ne fait pas rêver. Et il faut peut-être s'interroger un petit peu, pas simplement sur le manque d'emploi à disposition de ces jeunes, mais sur la façon dont on leur permet d'acquérir, avec ou sans emploi, une autonomie qui leur permet de progresser dans la vie et de se construire. Est-ce qu'aujourd'hui, on permet aux jeunes de créer leur propre entreprise ? Est-ce qu'on leur permet de se loger dans de bonnes conditions lorsqu'ils sont étudiants ? Je discutais récemment avec un président d'université lyonnaise qui m'expliquait comment il savait avoir dans son université une petite centaine d'étudiants qu'il pensait être sans domicile fixe. C'est quand même extrêmement préoccupant.
Alors justement, pour résoudre le problème du chômage des jeunes, François Hollande préconise l'instauration d'un contrat de génération, c'est-à-dire d'un dispositif qui consiste en la conclusion d'un contrat entre l'employeur et deux de ses salariés, un senior de plus de 55 ans et un jeune de moins de 30 ans, pour une durée de 5 ans. Pensez-vous qu'un tel dispositif, par ailleurs assez onéreux, puisse être soutenable et efficace? Ou craignez-vous d'éventuels effets d'aubaine, comme d'ailleurs le suggérait Martine Aubry lors de la primaire?
Alors c'est vrai que la droite a beaucoup essayé de brouiller les cartes sur ce dispositif, qui est pourtant un dispositif simple. Il s'agit en gros d'accorder un avantage aux entreprises du privé qui s'engagent à recruter un jeune de moins de 25 ans, tout en ne licenciant pas un senior près de l'âge de la retraite, c'est-à-dire en conservant le senior jusqu'à l'âge de la retraite. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le contrat de génération. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on fasse attention qu'à force de vouloir aider quelques-uns, ce ne soit pas d'autres qui finissent par en pâtir. Donc à force de vouloir aider les jeunes, ce soit les seniors proches de l'âge de la retraite qui en pâtissent. Et c'est vrai qu'il y a ensuite une exonération de charges pour ces entreprises qui s'engagent dans ce dispositif. Objectivement, vous savez, si vous reprenez aujourd'hui la liste des exonérations de charges dont bénéficient les entreprises pour des raisons beaucoup moins légitimes que celles-là, vous vous dites, bah, y a peut-être quelque chose à faire sur une réforme de la fiscalité des entreprises pour qu'elle soit plus intelligente, mais que cette mesure-ci, qu'elle coûte de l'argent, bien sûr qu'elle coûtera un peu d'argent, mais elle coûtera de l'argent à bon escient, puisque l'idée, c'est de remettre des gens en emploi. Vous savez, le chômage coûte toujours plus cher que les exonérations de charges.
Mis à part le contrat de génération, quelles autres propositions faites-vous à ce sujet?
Je pense qu'il faut beaucoup miser sur la création d'entreprises. C'est vraiment, vous savez, il y a un terme anglo-saxon auquel on a beaucoup de mal à se faire, nous en France, qui s'appelle l'empowerment. L'empowerment, c'est une méthode qui consiste à dire aux gens, mais prenez-vous en main, nous sommes là pour vous accompagner, évidemment, pour vous aider dans les démarches, etc. Mais dans le fond, vous êtes acteur de votre propre vie. Et chacun de vous est en capacité, parce que chacun a des compétences singulières, de trouver un domaine dans lequel il est capable finalement de créer sa propre activité et de la faire fructifier. Je ne dis pas que tout le monde doit être chef d'entreprise, mais à un moment donné, je pense en particulier aux banlieues, aux quartiers populaires dans lesquels nous avions beaucoup fait campagne avec Ségolène Royal. Nous avons souvent rencontré des jeunes gens qui, même en ayant quitté les études tôt, en étant sortis sans diplôme, savaient faire quelque chose de leur dix doigts. Ils savent toujours quand vous faites de l'empowerment, c'est-à-dire que vous leur faites confiance aussi et que vous les aidez à prendre confiance en eux-mêmes, c'est surtout ça qui compte, vous vous rendez compte que les potentiels sont absolument énormes. Et donc nous devrions plutôt faire de la France un pays d'entrepreneurs, que nous devrions impulser cet état d'esprit-là.
Une autre question sur les logements étudiants, qui constituent un autre problème pour de nombreux jeunes, souvent chers et trop peu nombreux. Le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, a annoncé la mise en place d'un plan de redéploiement de logements étudiants et surtout la taxation de 10 à 40% des propriétaires qui pratiquent des loyers abusifs sur les petites surfaces. Comment accueillez-vous cette décision et que proposez-vous pour remédier à ce problème ?
Vous savez, le programme du Parti Socialiste comprend une mesure de plafonnement des loyers. Donc c'est une façon de répondre à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable scandale dans la question du logement en France. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, 75% de la population française serait éligible en termes de revenus à un HLM, à un logement en HLM. Donc ça veut dire quand même que les Français ont des petits revenus et qu'il faut donc construire les types de logements qui leur sont accessibles. Et donc, il y a deux choses qui sont prévues par le Parti Socialiste. C'est un, je vous le disais, le plafonnement des loyers. Et puis deux, de construire plusieurs centaines de milliers de logements dès le début de la mandature. Parce que moi, encore une fois, on peut dire que ça coûte cher, etc. Mais vous résolvez beaucoup de problèmes en permettant aux gens de vivre dignement dans de bonnes conditions.
Nous l'avons dit, vous êtes adjointe au maire de Lyon, déléguée à la jeunesse. En quelques mots, quelles actions avez-vous récemment menées sur la ville de Lyon pour la jeunesse ?
Ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est par exemple sur une opération qui est annuelle aujourd'hui, qui s'appelle 18 ans à Lyon, qui consiste à écrire à l'ensemble des jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans dans notre ville et à les inviter à venir passer une journée à l'hôtel de ville pour passer une espèce de cap un peu solennel de la majorité et de ce qui va avec la majorité, c'est-à-dire de nouveaux droits, de nouveaux devoirs, leur donner l'accès en un seul lieu et en un seul moment à toutes les informations qui les aideront à trouver un logement, à passer le permis de conduire, à savoir comment on vote, pourquoi on vote. Voilà, toute cette citoyenneté, on va dire, pour prendre un terme global, qui s'offre soudain à eux, leur est présentée en un seul lieu. Et c'est vrai que c'est une opération à laquelle je tiens beaucoup parce que du coup c'est aussi l'occasion pour nous, j'allais dire les adultes, de prendre le pouls de cette génération-là parce que c'est un moment aussi où on échange beaucoup avec eux et ils nous font remonter ce qui manque dans cette ville. C'est un exemple parmi d'autres. Un deuxième exemple, puisqu'il se trouve que c'est le week-end prochain, le week-end du 11 novembre, on est très fiers d'ailleurs de l'accueillir, le congrès des MJC de toute la France, c'est-à-dire que vous avez 900 MJC de France qui viennent à Lyon et qui vont passer 3 jours à essayer d'imaginer, de se projeter dans l'avenir pour voir comment est-ce que toute la jeunesse qu'elles accueillent, parce que les MJC c'est formidable pour sa mixité sociale, c'est quand même le lieu où n'importe quel jeune avec des moyens, sans moyens, peut venir développer ses goûts, ses intérêts, apprendre des choses, etc., faire des projets et les mener à bien. Donc ces MJC vont se retrouver pour justement se projeter dans l'avenir et voir comment faciliter toujours plus la vie à ces jeunes et leur donner envie de construire notre avenir.
Merci. En cette période de crise, de plus en plus de jeunes ont tendance à se désintéresser de la politique ou à se tourner vers les extrêmes et les discours populistes. C'est à leur attention que vous avez récemment écrit un livre, n'est-ce pas Thomas ?
En effet. 18%, c'est la part des 18-30 ans qui ont voté Front National aux dernières élections cantonales, lors desquelles le parti d'extrême droite a eu un score très important. 18%, le chiffre est assez conséquent, surtout quand on sait que traditionnellement, le parti d'extrême droite voit son électorat au-dessus de la barre des 60 ans. Mais c'est vrai, on se rappelle tous de cette affiche de campagne hallucinante en 2007 où Jean-Marie Le Pen était entouré de 6 personnes, dont un enfant, 3 jeunes, parmi lesquels une jeune fille métisse, avec ce slogan « Avec Le Pen, tous ensemble relevons la France ». En 2012, c'est Marine Le Pen, la fille, qui est candidate et l'audience du Front National s'est accrue. Vous vous étiez inscrite, Najat Vallaud-Belkacem, au Parti Socialiste après le choc du 21 avril 2002. Et cette année, vous co-signez un livre dont le titre est évocateur « Réagissez, répondre au Front National de A à Z » avec Guillaume Bachelet. Dans le prologue, vous vous adressez aux citoyens qui pourraient tenter de voter Front National, que vous ne méprisez pas, vous ne les jugez pas, mais à qui vous dédiez ce livre. Votre motivation, elle est très pédagogique, c'est de faire un abécédaire des grands thèmes « culture, dette, homosexualité, laïcité, nucléaire, etc. » pour examiner dans le détail ce que propose le Front National et montrer en quoi son projet n'est pas viable, voire dangereux. Le livre commence ainsi. Lettre à un citoyen. Ce livre est pour toi, citoyen, entre citoyens depuis un peu plus de 2 siècles, tutoiement et de rigueur. Alors je vous prends au pied de la lettre, citoyenne Najat Vallaud-Belkacem, pour le reste de l'interview, on se tutoie ?
Allez.
Parfait. Tu t'adresses aux citoyens qui pourraient être attirés par les idées du Front National. La classe politique a eu et a encore aujourd'hui tort de mépriser les électeurs du Front National, selon toi.
Depuis des décennies, on répond au Front National sur le même mode, qui est le mode de la diabolisation des idées d'extrême droite et de la stigmatisation de ses électeurs. Et que maintenant, il est vraiment largement temps de se rendre compte que c'est contre-productif comme méthode. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce qu'on voit bien que le Front National prospère. Il prospère malheureusement, même si c'est toujours difficile à accepter. Il prospère non seulement avec son électorat traditionnel de gens qui, en effet, sont animés par une certaine xénophobie, un rejet de l'autre, etc. Mais il prospère surtout avec un nouvel électorat, qui est un électorat qui n'est pas raciste, qui n'est pas xénophobe, mais qui est très, très intéressé par les mots, par les slogans du, entre guillemets, nouveau FN, notamment du nouveau FN version Marine Le Pen.
C'est par exemple les jeunes ou les ouvriers qui, traditionnellement, sont des gens qui votent à gauche. Alors comment expliques-tu le fait que cette frange de l'électorat puisse vouloir se tourner vers le Front National et ses idées?
Parce que cette frange de l'électorat considère que la droite comme la gauche ont échoué. Vous savez, moi, vous l'avez très bien, je vous remercie parce que c'est rare, vous l'avez très bien présenté le livre. C'est exactement ce que vous en avez dit, c'est-à-dire une tentative assez modeste finalement d'apporter du grain à moudre aux gens qui veulent se défendre contre ce qui est en train de se passer avec le Front National, c'est-à-dire une banalisation de ce parti, une conviction que finalement, ben, c'est vrai, il a changé, il est acceptable, il est honorable, et même ses idées économiques et sociales en particulier sont peut-être intéressantes. Il faut lutter contre cela. Je m'en suis rendu compte au moment des dernières élections cantonales, quand je faisais beaucoup campagne avec des camarades, j'étais pas moi-même candidate, mais je les accompagnais, et notamment dans les quartiers populaires, quand j'essayais de les convaincre de voter pour la gauche, ils me répondaient, mais ça suffit, la gauche, la droite, vous avez tout essayé, vous nous avez beaucoup raconté de choses, mais en fait, il n'y a rien qui marche. Regardez l'État qui est le nôtre, c'est la crise, c'est la misère, c'est le chômage, c'est même, on se demande si on a une place dans cette société. Et il faut l'entendre, ça. Il faut entendre que depuis des décennies, ben, finalement, il y a un déclassement des gens, il y a un sentiment d'éloignement de la gauche par rapport aux classes populaires. Je dis un sentiment, est-ce que c'est vrai ou pas, justement, c'est toute la question que je pose, et que le Front National prospère sur ces éléments-là, parce que le Front National a un langage qui, en plus, par rapport à Jean-Marie Le Pen, a un peu évolué, c'est-à-dire qu'il se veut plein de sollicitude à l'égard des plus faibles et des plus pauvres, parce que Jean-Marie Le Pen, il avait un discours ultra-libéral, hein, donc à la limite, c'était presque plus facile à combattre. Là, c'est ce qu'on relève dans notre livre avec Guillaume Bachelet, Marine Le Pen, il y a des sujets, prenez la fiscalité, prenez les retraites, etc., sur lesquels elle va recopier les têtes de chapitre du programme du Parti Socialiste. C'est incroyable. Sauf que c'est une imposture. C'est une imposture parce que, en gros, elle fait preuve d'une espèce de cynisme et de capacité à jouer sur les choses qui marchent. Donc, elle comprend que les gens sont en demande de plus d'équité fiscale. Donc, elle va recopier ça. Que les gens voudraient revenir à la retraite à 60 ans. Donc, elle va recopier ça. Sauf que, justement, ce qu'on démontre dans ce livre, puisqu'on détricote tout ce qu'elle dit, et on démontre que, bah, je disais, imposture, par exemple, sur la réforme des retraites, le Front National n'a jamais défendu la retraite à 60 ans, n'était pas aux côtés des salariés dans la rue quand ils ont manifesté. Sur la laïcité, pour prendre un autre sujet, le Front National aujourd'hui se dit premier parti laïque de France. On rappelle juste qu'au moment où il y a eu l'histoire des foulards au sein des établissements scolaires, le Front National était pour qu'on puisse porter le foulard. Ou qu'aujourd'hui même, ce qu'il entend par la laïcité, c'est une France forte de sa chrétienté traditionnelle, mais un islam rejeté aux marges. Donc c'est vraiment une version très particulière de la laïcité. Sur des sujets aussi majeurs que la sécurité. Voilà des décennies que le Front nous parle de la sécurité, on a l'impression que c'est son sujet et qu'il a dû le travailler à fond. J'en étais moi-même surprise, il n'y a rien, il n'y a strictement rien, à part des propositions totalement absurdes comme l'injonction civile qui, en gros, consisterait à interdire à un délinquant qui a été condamné à une peine de prison, un délinquant venant d'un quartier populaire, condamné à une peine de prison, on lui interdirait à sa sortie de prison de retourner dans son quartier populaire. Sauf que jamais le Front National explique comment on fait ça, est-ce qu'on met des barrières à l'entrée des quartiers populaires? Vous voyez donc des propositions vaines et absurdes. Je disais donc la vacuité. Et puis le dernier élément qui caractérise les propositions du FN, c'est les dégâts qu'elles pourraient causer. Et là, on arrive sur les propositions économiques et sociales. Je
Par
pense
exemple,
à la sortie de l'euro.
Et ben justement, parlons-en. C'est la grande solution érigée par Marine Le Pen qui va tout résoudre, comme son père avait comme grande solution la fermeture des frontières. Alors, elle a raison, Marine Le Pen, c'est ça la solution, on sort de l'euro et tout est réglé?
Justement, cette interview tombe très bien puisqu'on est à...
Merci.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de timing, on est deux jours après la décision de Papandréou d'organiser un référendum sur le plan européen qui lui est proposé. Et c'est vrai que vous comprenez bien que ce qui est en train de se jouer, c'est la sortie peut-être de la Grèce de l'euro. Et donc, je me mets à la place des gens, parce que nous encore, on appartient à un microcosme extrêmement bien informé de ce à quoi sert l'euro, des vertus qu'il peut avoir, etc. Mais je me mets à la place des gens qui, malheureusement, ne subissent que la crise tout au long de l'année. Et qui se disent, bah, finalement, toutes ces belles âmes qui nous ont dit que c'était dramatique si on sortait de l'euro, bah, la Grèce s'apprête peut-être à le faire, et après tout, c'est peut-être une bonne chose. Et puis au moins, Marine Le Pen, on dirait qu'elle est déterminée, qu'elle tape du poing sur la table, et que c'est une solution simple, sortir de l'euro puisqu'il est si cher. Sauf que non, ça nous compliquerait évidemment la tâche pour une raison très simple, c'est que si, d'une certaine façon, si on sort de l'euro, on va devoir retourner au franc. Le franc a une valeur inférieure à l'euro. Or, on aura toujours une dette à rembourser. Cette dette, elle restera libellée en euros. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter les impôts des gens, baisser leur salaire, baisser leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, nous, on sera donc, on retournera en France. Ça aura un intérêt, c'est ce que dit Marine Le Pen, c'est que du coup, nos produits fabriqués en France seront moins chers pour ceux qui les achètent de l'étranger, donc on les exportera plus facilement. Mais à contrario, les produits qu'on importera chez nous, eux, ils seront plus chers. Or, c'est des produits de consommation courante, c'est-à-dire que les gens, quand ils importeront leurs bananes ou leur écran plasma ou je sais pas quoi, ou leur café, ça leur coûtera beaucoup plus cher alors qu'ils payent déjà plus d'impôts, qu'ils ont un salaire réduit, etc., etc. Donc au final, ça nous conduit droit à la catastrophe. C'est un exemple parmi d'autres.
On va en prendre juste un dernier, chapitre A comme aide sociale. En 2007, le Front National parlait de préférence nationale. En 2012, il parle de priorité citoyenne. Les mots évoluent peu, le discours non plus. Le discours, c'est les étrangers toucheraient gracieusement des aides que les citoyens français ne touchent pas et qui pèsent sur le budget de l'État. Alors qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que tu réponds? Il faut rester dans la thématique.
Je réponds d'abord qu'il faut toujours regarder les deux colonnes d'un bilan. C'est vrai que les étrangers coûtent de l'argent à la France en prestations qui leur sont versées, etc. Mais ils en rapportent aussi. Ils en rapportent. Et justement, l'intérêt de notre ouvrage, c'est qu'on a voulu démontrer par A plus B comment, si on met bout à bout les allocations logement, les allocations familiales, etc., que les étrangers peuvent percevoir, eh bien, ça fait 47 milliards d'euros par an. Mais à côté, on met aussi bout à bout les impôts que les étrangers payent, la TVA que les étrangers payent. On se rend compte que le différentiel entre les deux est de 12 milliards de bénéfices. C'est-à-dire qu'en réalité, les étrangers rapportent davantage à l'État français qu'ils n'en coûtent. Alors évidemment, vous allez me dire, ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça veut quand même dire que traiter les sujets de façon trop simplificatrice et en plus en oubliant la moitié des chiffres, c'est quand même problématique. Et c'est de la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, on la retrouve chez Marine Le Pen quand par exemple, elle prétend que notre pays reçoit de 400 000 à 500 000 étrangers par an sur le territoire. Aucun institut, ni l'INED, ni l'INSEE, ni aucun institut
assermenté. Et là, elle reprend les mêmes chiffres que son père. Son père
elle reprend les mêmes chiffres que son père, mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand elle dit ça sur un plateau télé, malheureusement, très souvent, elle a face à elle un interlocuteur, un journaliste, un animateur, qui n'a pas les bons chiffres en tête, donc qui ne peut pas la rembarrer tout de suite. Or, c'est une information qui, du coup, est imprimée par les téléspectateurs qui écoutent. Même s'ils adhèrent pas naturellement à Marine Le Pen, ils se disent « Ah quand même, 500 000 étrangers par an sur notre territoire, alors qu'on est en pleine crise. » C'est faux. C'est faux, on reçoit 100 000 étrangers. C'est pas 500 000, il y a une différence quand même. Et vous voyez, c'est un petit peu, dans le fond, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est que le problème avec Marine Le Pen, c'est pour ça que moi, à titre personnel, Guillaume aussi, on la considère comme un peu plus dangereuse que son père, c'est qu'elle a un véritable charisme, mais un charisme différent de celui de son père. C'est-à-dire que son père avait un charisme pour ceux qui aimaient les provocations, le goût du sang, le sulfureux, etc., avec ses bavures, ses dérapages réguliers. Elle a un charisme qui est à la fois presque amusant, parce qu'elle a cette capacité à prendre le dessus, quel que soit l'interlocuteur autour d'elle, et en même temps rassurant, parce qu'elle présente un visage vraiment ripolliné, une façade sympathique du Front National. Sauf que le Front National, c'est pas ça. Hein. Derrière elle, derrière sa blondeur et son sourire, je vous le dis, hein, parce que moi je viens de sortir cet ouvrage, et du coup je suis devenue l'une des victimes des attaques sur les sites internet qui pullulent autour du Front National. Allez parfois, par simple curiosité, les lire, vous comprendrez ce qu'est le Front National. C'est-à-dire qu'il reste malgré tout des éléments de xénophobie, d'islamophobie.
Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Alors pour approfondir le sujet, je vous encourage, vous auditeurs, à lire, réagissez, répondre au Front National de A à Z. Votre livre, Najat Belkacem, avec Guillaume Bachelet, qui est paru aux éditions Gassevitch, qui est pour un livre politique très bien écrit, ce qui est assez rare. Et un autre livre,
merci.
Un piège bleu marine de Laurence Parisot aux éditions Calmann Lévy, pour pouvoir avoir une perspective. Si Présidence prend le temps d'évoquer des sujets de fond comme nous venons de le faire sur la jeunesse avec Najat Vallaud-Belkacem qui est restée avec nous pour la suite de l'émission, Présidence est là également pour pointer du doigt tous les coups bas, manipulations, contre-vérités, polémiques et petits travers de nos hommes et femmes politiques. C'est la rubrique Alerte Rouge. Le Parti Socialiste devrait envoyer un gros bouquet de fleurs à Nafissatou Diallo. Je vois Najat Vallaud-Belkacem un petit peu dubitatif qui se dit que finalement elle aurait peut-être dû ne pas rester. Je m'explique. Imaginons l'espace d'un instant qu'il ne se soit rien passé le 14 mai 2011 dans la fameuse chambre du Sofitel de Manhattan. Imaginons que l'ancien patron du FMI n'ait pas voulu montrer à la femme de chambre à quel point son plan de rigueur était dur. Imaginons qu'il ait compris que quand on dit qu'il faut laisser un pourboire à la femme de ménage, c'est d'argent dont on parle et pas d'autre chose. Bref, imaginons qu'il ait pris ce jour-là le vol AF-23 pour Paris sans avoir quelque chose à se reprocher et que toute cette affaire n'ait pas eu lieu. Il y a tout à parier qu'au soir du second tour des primaires socialistes, il ait été désigné en superstar devant un François Hollande dont la seule victoire aurait été d'avoir perdu du poids. Trois jours plus tard, le 19 octobre, à la une de tous les journaux, aurait éclaté le scandale du Carlton, cet hôtel qui a fourni des prostituées à ses clients, parmi lesquels le nom de Dominique Strauss-Kahn apparaît. DSK aurait alors perdu toute crédibilité et le Parti Socialiste toute chance de remporter les élections présidentielles avec un tel candidat. C'est pourquoi le Parti Socialiste peut dire merci à Nafissatou Diallo qui, en quelque sorte, a empêché cela. Restons dans le bon goût, l'élégance, la poésie, avec cette déclaration de l'ancien garde des Sceaux, Pascal Clément, devant les caméras du petit journal de Canal+. « Je l'aime bien, Fillon, mais ma copine Dati va lui mordre les couilles jusqu'à ce que mort s'en suive. » Oui, si le Parti Socialiste devrait envoyer des fleurs à Nafissatou Diallo, Rachida Dati, quant à elle, aurait pu lui donner quelques petits conseils. Changeons de ton. De l'humour gras, passons à la gravité présidentielle. La République qui agit, la République qui protège. C'est le slogan d'une récente affiche de l'UMP avec un Nicolas Sarkozy souriant au milieu d'une foule pour vanter son bilan de chef de l'État. La République qui agit, la République qui protège. Ce slogan ressemble étrangement à celui du Parti Socialiste pour les législatives de 2007. La gauche qui agit, la gauche qui protège. Il y a comme un petit air de ressemblance, non ? Il faut le comprendre à l'UMP. Le président parle d'austérité et de nécessité de faire des économies. Alors l'UMP montre l'exemple. Pas la peine de payer des conseillers pour trouver un slogan. On n'a qu'à piquer aux socialistes un vieux slogan qui n'a pas marché. Peut-être que c'est également pour cela que pour l'instant, à l'UMP, ils n'ont pas de programme pour les élections présidentielles. Et bah oui, ils font des économies. En revanche, si au dernier moment, ils décidaient de reprendre aux socialistes un vieux programme qui n'a pas marché, déjà, ils auront l'embarras du choix, et ensuite, ça risque de ne pas passer inaperçu. Le journal Charlie Hebdo incendié après la publication d'une caricature de Mahomet en une. Des manifestations, parfois violentes, de catholiques devant le théâtre de la ville contre la pièce qu'ils n'ont visiblement pas vue de Romeo Castellucci. Attention, cet automne, la mode est à l'intégrisme et les feuilles mortes ont une odeur pourrie. Alors, contre l'obscurantisme, il est bon de temps en temps de relire son Voltaire. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse. Enfin, Marine Le Pen, restons dans la thématique, a déclaré sur RTL « Je suis la voix de la raison, de la modération et de l'équilibre ». C'en est presque drôle tellement c'est absurde. La voix de la raison, de la modération et de l'équilibre. Vous allez voir que bientôt, elle va nous annoncer que son père c'est Bouddha et qu'ensemble, ils veulent nous emmener sur la voie de la sagesse. Jules Renard disait « Nous sommes ici-bas pour rire. Nous ne le pourrons plus au purgatoire ou en enfer. » Et au paradis, ce ne serait pas convenable. Avec lui, jamais un ange qui passe dans le studio. Et cela fait longtemps qu'il a rangé son auréole. Voici le billet d'humeur et d'humour d'Antoine Jaya qui a l'air beaucoup mieux que la semaine dernière.
Absolument. La grande forme. Et peut-être pour quelques siècles encore. Oui, chers auditeurs, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été sidéré par la découverte scientifique sur la réversibilité du vieillissement. Des scientifiques ont en effet réussi à rajeunir des cellules qui appartenaient à des centenaires, ce qui ouvre la voie à nos rêves d'immortalité les plus fous. Tu te rends compte, Thomas ? Avoir la jeunesse pour toute l'éternité, sans que jamais présidence notre émission ne prenne la moindre ride.
Un rêve.
En même temps, les hommes politiques non plus ne vieilliraient pas. Et ce serait génial. Jacques Chirac est grabataire, sénile, toc toc, pas de problème, on vous le retape. Un petit rajeunissement de cellules par-ci, par-là. Et, ni vu ni connu, plus vite que l'éclair, Jacques Chirac devant la justice. Génial. François Bayrou, vous en avez assez d'être crédité de 5% d'intention de vote, alors que vous avez déjà derrière vous deux échecs à l'élection présidentielle? Nous avons la solution. Un petit rajeunissement de cellules et hop, vous pourrez vous présenter ad vitam aeternam et vous finirez bien par la gagner un jour, d'ici 300 ou 400 ans, qui sait. Un problème de dette, on s'en fout, on pourra vivre assez longtemps pour rembourser n'importe quel emprunt. Eh oui, monsieur Papandréou, le triple A pour l'éternité, ce serait génial! Un problème pour financer la sécu ou pour nos retraites, mais c'est fini tout ça, on travaillera pour l'éternité et sitôt qu'une maladie se présente, hop, rajeunissement de cellules, le paradis reviendra sur terre mes enfants, et ça, c'est merveilleux. Bon, il y aura peut-être quelques trucs un peu moins merveilleux en contrepartie parce qu'on n'a rien sans rien malheureusement. Et oui, les hommes politiques qui de tout temps se sont attachés au pouvoir comme le braconnier à l'ivoire des éléphants, paix à leurs âmes, seront en campagne pour l'éternité. J'imagine bien la campagne présidentielle de l'année... de 1912, par exemple. Il est 20h. Le nom du nouveau président de la République est... Nicolas Sarkozy, élu avec 51% des voix face à François Hollande. Eh oui, le candidat socialiste, ancien président de la République, il y a de cela 900 ans, a subi le revers de la division de son camp. En effet, son ancien camarade Dominique Strauss-Kahn, après une traversée du désert de 300 ans, un régime draconien pendant 500 ans, un passage au couvent de 15 jours et un mariage flamboyant avec Carla Bruni, paix à son âme à elle aussi, a finalement pu se racheter aux yeux des Français et a rogné sur l'électorat centriste de François Hollande. Mais tout ne sera pas simple pour le nouveau chef de l'État, car des suspicions de financements occultes persistent. En effet, la milliardaire Liliane Bettencourt, qui a retrouvé l'usage de sa fortune et épousé Jean Sarkozy, et qui est devenue la plantureuse top modèle que l'on connaît bien, n'a jamais caché ses sympathies pour l'UMP. Et Nicolas Sarkozy a quand même su gagner en rassemblant son camp, ce que n'a pas fait François Hollande. En effet... il a su rassembler, après qu'Éric Besson, le très loyal directeur de campagne de Valérie Giscard d'Estaing, lui-même revenu en politique après la tragique mort de Jean-Louis Borloo suite à un coma éthylique, paix à son âme encore une fois, après qu'Éric Besson, donc, a finalement appelé à voter pour le candidat qui s'est distingué avec le fameux slogan nataliste « Avec des enfants, tout devient possible ». Bon, vu comme ça, je me demande si c'est pas plutôt l'enfer qui nous attend.
Merci beaucoup Antoine. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Merci à vous Nadjad Vallaud-Belkacem d'être restée en studio. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Présidence a la joie de couvrir pour vous le forum Libération qui a lieu à Lyon du 25 au 27 novembre. Nous vous concoctons de belles émissions spéciales avec de nombreux invités. Je vous donne donc rendez-vous bientôt, et je vous laisse en bonne compagnie avec toutes les autres émissions de Transistor et notamment un numéro vraiment génial de l'atelier consacré aux indignés de Lyon, présenté par Justine Knebelmann et diffusé il y a 2 semaines, mais qui est toujours disponible dans la rubrique Face B. Je vous souhaite donc une bonne écoute sur les ondes de Transistor et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.